Radio Foot International.
Olivier Pron.
Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans Radio Foot International, ravi de vous retrouver aujourd'hui encore pour causer ballon, un ballon qui semble-t-il ne tourne pas vraiment rond en ce moment au Cameroun, à moins de deux mois de la Coupe du Monde. Les Lions indomptables viennent d'enchaîner deux défaites face à des nations plutôt mineures, on va dire ça comme ça, de la planète foot, l'Ouzbékistan samedi, puis la Corée du Sud aujourd'hui.
Victoire de la Corée du Sud, 1-0 les hommes de Paulo Bento qui s'impose dans face aux Lions indomptables. Avec sa dernière occasion de Léon Tamamba.
Pas de nature à rassurer les supporters. Benjamin Moukandjo, non, vous êtes bien là?
Oui, je suis très bien là.
Bonsoir Benjamin. Bon, pour expliquer rapidement à nos auditeurs, bon, bah, ça arrive, hein, on est mardi, vous pensiez venir mercredi, ou vous... Bref, on vous a, c'est l'essentiel. Vous êtes au téléphone et vous allez pouvoir avec nous parler... Parler de ces Lions indomptables, je vous le disais donc en préalable, pas tout à fait rassurante hein, ces deux défaites.
Ben, je pense que là, quand même, la défaite d'aujourd'hui, on a quand même vu de belles choses comparées au précédent match contre l'Ouzbékistan. Aujourd'hui, on a vu quand même une belle équipe, une équipe valeureuse, qui n'a pas lâché face aussi à une très belle équipe de la Corée. Bon, je crois qu'il y a encore quand même quelques trucs à régler. Et puis, on a des joueurs comme Zambo qui feront probablement leur retour pour la Coupe du Monde. Donc, voilà. Mais on ne peut pas tirer d'enseignement aujourd'hui parce qu'on n'est pas à la compétition. C'est un match amical. On sait très bien que les matchs amicaux ne sont pas forcément la réalité de la Coupe du Monde. Donc, on va attendre un peu avant de se prononcer. Mais il y a du positif et bien sûr, il y a aussi du négatif qu'il va falloir gommer avant le début de la compétition.
Bon, bah, j'ai bien fait de vous présenter un peu comme un supporter parce que finalement, on ne va pas être tout à fait d'accord. Je rappelle que les trois prochains adversaires au Mondial, puisqu'il n'y aura pas de match avant, c'est à cette équipe qui vient donc de s'incliner sur l'Ouzbékistan, dont le classement FIFA nous a échappé, mais qui doit être au-delà de la 150e place. Puis, face à la Corée du Sud, les trois prochains adversaires seront donc les Suisses, les Serbes et les Brésiliens. Et on écoutera Samuel Eto'o qui nous dit que, bien sûr, l'idée, c'est d'être en finale le 18 décembre. Ah bah, pourquoi pas. Comme à chaque fois, après ces matchs, on a droit à des déclarations lunaires. C'est sûrement nous qui voyons le mal partout. Alors, rassurez-vous, supporters des Lions, ou pas, le ballon ne tourne plus vraiment rond non plus chez les traditionnels favoris européens de la Coupe du Monde. La France, nous en avons longuement parlé hier, nous avons étalé nos doutes sur les troupes de Didier Deschamps. Mais aussi, nous allons le faire aujourd'hui pour l'Angleterre, l'Allemagne, la Belgique, tout ça, c'est pas top, des sélections globalement décevantes dans cette Ligue des Nations qui s'achève ce soir et sur lesquelles on peut avoir donc de gros doutes. Au contraire des outsiders d'hier, les Pays-Bas, la Croatie, voire le Danemark, en attendant ce soir, Espagne ou Portugal. Ah, les Pays-Bas au top, ça vous plaît ça, hein, cher Eric Guébourg?
Énormément, bonsoir. Bonjour Olivier, bonjour à tous.
Pour clore cette émission, on va parler Bourpif et Castagne, autrement dit équipe de France des moins de 18 ans. Des petits bleus de rien du tout, insignifiants dans leur foot et surtout dans leur éducation. Dimanche à Limoges face à la Pologne, 4 cartons rouges en 20 minutes, un match arrêté, la honte absolue sur le maillot qu'ils portent et le pays qu'ils représentent. Un mauvais exemple de plus, après notamment tiens, le geste calamiteux de l'intellectuel Presnel Kimpembe il y a 15 jours envers l'arbitre et des mots adressés également. Où va le foot, vitrine d'une société, dit-on? Ça fout plutôt les jetons. Alors on a invité notre sale gosse à nous, Salim Baudgali. Bonjour jeune homme.
Bonjour Olivier, bonjour à toutes et à tous. Je prolongerai même votre question. Où va le foot français? Parce qu'on voit tellement de choses actuellement en France autour de la Fédé et même sur les terrains français. Il y a beaucoup de choses à dire.
Il paraît.
Et on peut avoir une pensée pour tous les éducateurs qui doivent faire le job après de tels exemples désastreux. On pense à eux. Tiens, demain, mercredi, il y aura plein d'enfants à éduquer. Ce sera pareil samedi et dimanche. Une pensée aussi pour Laurent Salerno, obligé de nous écouter chaque jour derrière ses manettes. On n'y pense pas assez. Enfin, c'est quand même un drôle de métier. Une pensée pour David Fitzel sur le pont dès le matin, parfois très tôt, à tel point qu'il vous appelle alors que vous êtes encore au lit à soigner votre nez. Oui, c'est ainsi. Allez, on y va.
Ah oui,
2-0 samedi contre l'Ouzbékistan, 1-0 cet après-midi, toujours à Séoul contre la Corée du Sud, vous venez de l'entendre, but de Heung-min Son. Les Lions de Rigobert Song manquent de mordant, allez, à minima. Alors, avant de retourner voir notre ami au téléphone, notre invité mystère, moi qui ne l'ai plus, hein, Benjamin Boukandjo, je vous demande votre avis, messieurs, parce qu'on a entendu Benjamin, on l'entend rire. C'est ça, c'est sympa. Qui va forcément essayer de nous convaincre que la Coupe du Monde, c'est dans deux mois, mais qu'on a le temps de changer beaucoup de choses. C'est quand même, franchement, pas emballant. Parmi les équipes africaines mondialistes, ça fait partie des résultats les plus faibles, là, quand même, à deux mois de la compète.
Dans le sommaire, vous l'avez bien dit, c'est la dernière trêve avant cette Coupe du Monde.
Oui,
ce sont vos derniers matchs. Voilà, ce sont vos derniers matchs. Et quand vos derniers matchs, donc vos derniers matchs de préparation, vous les faites ainsi, en perdant comme cela, alors face à la Corée du Sud, à la limite, ça peut s'entendre, la Corée du Sud est loin d'être une équipe risible d'Asie, et elle a prouvé avec un joueur hors norme qui est Heung-min Son. Mais face à l'Ouzbékistan, alors même si ce n'était pas le match du jour, mais tout de même, l'Ouzbékistan a montré des défauts importants de cette équipe du Cameroun. Donc quand vous avez toutes ces questions qu'on se pose, et j'ai presque envie de dire le discours hors sol de certains, et pardon Samuel Eto'o qui est un grand homme, qui est un immense footballeur, enfin tout ce qu'on veut, mais quand on a ces résultats du Cameroun et ces propos de Samuel Eto'o, on se dit, sommes-nous dans le même monde ?
Alors on va les retrouver Benjamin Boukandjo.
Et quand on l'écoute Benjamin Boukandjo, sommes-nous dans le même monde Benjamin ?
Mais non, on va voir. On rappelle pour nos auditeurs qui ont bon, je sais pas, qui dormait ces 20 dernières années, que Benjamin est un ancien Lion, donc il en connaît quand même un rayon sur ces Lions indomptables. Juste un mot, shérif, et on va aller écouter Samuel Eto'o, et bien sûr, on va faire réagir Benjamin et vous tous sur ce discours lunaire, moi j'appelle ça lunaire, de Samuel Eto'o samedi. Un mot, shérif, sur ces Lions indomptables après ces deux défaites en deux matchs.
Bon, déjà, la défaite contre l'Ouzbékistan, elle n'est pas très, très rassurante, mais après, sur le contenu contre la Corée, parce que j'ai vu un peu. On a retrouvé un peu les mêmes limites, pour ne pas dire plus, du Cameroun qu'on avait vu à la CAN. Ils ont fini troisième, en fait. Bon, ils auraient dû finir quatrième parce qu'on se souvient de la façon dont ils avaient remonté pour le match de la troisième place. C'est une équipe qui a ses limites. Et le problème, c'est qu'elle a des limites partout. Elle a des limites devant, au milieu et en défense. Il y a Onana qui fait deux arrêts, alors là, lunaire, mais dans le bon sens du terme. Sinon, l'addition aurait pu être plus corsée. Et donc voilà, c'est une équipe qui joue par à-coups et qui peut marquer des buts, mais ça sera insuffisant pour la Coupe du Monde. Là, il n'y a plus de rattrapage, il n'y a plus de phase de préparation, de rassemblement de 2 à 3 semaines. Il va falloir enquiller rapidement et le chantier est encore ouvert.
Alors, on écoute Samuel Eto'o, le président, bien sûr, de la Fédération Camerounaise.
La pensée magique.
Et donc, ce discours, on précise, c'était après le match contre l'Ouzbékistan, donc samedi soir, dans les travées du stade de Séoul. On écoute le président.
Ce que nous voulions voir, nous l'avons vu, c'était beaucoup plus la réaction de l'équipe. Et pour la première fois, j'ai souhaité voir l'équipe du Cameroun perdre, sachant que nous avons notre objectif qui est parti de la compétition le 18 décembre à Doha, dont vous allez mieux comprendre quand je vous dis parti de la compétition le 18, ça veut dire notre objectif, nous ne le perdons pas de vue. Parce que c'est possible. Mais pour l'atteindre, évidemment, il faut voir comment le groupe vit quand il y a des difficultés, et c'est ce que nous voulons voir. Nous n'avions plus beaucoup de temps. Je félicite ce groupe parce que j'ai vu des réactions positives à la mi-temps. J'ai vu dans le stade des réactions positives. C'est ce groupe. Quand on veut vivre ensemble, il faut que le groupe soit humainement bon. Je ne sais pas si vous vous rappelez quand j'ai dit « je vais avoir un groupe humainement bon ». Et évidemment, il y a aussi la fatigue. Moi-même, je suis arrivé hier avec une partie des joueurs, tout ça. Et je pense que le 27, nous aurons une très, très belle équipe du Cameroun, bien reposée. Et nous allons chercher d'autres enseignements de ce match-là. Mais le plus important pour nous et notre première finale, bien évidemment, c'est le 24 novembre à Doha.
Ce sera
quand il parle du 18
Suisse.
Décembre, c'est la finale.
C'est la finale.
C'est la finale.
Il est en finale.
C'est ça.
Pour les auditeurs.
Oui, c'est pas trompé en parlant de novembre. Non.
Voilà. Non, il s'est pas trompé du tout. Le premier match, c'est le 24 novembre. Quand on écoute ce discours, on va aller quand même voir Benjamin, parce que je l'entends. Il tout saute quand même. Tout à l'heure, il riait. Là, il écoute le président de la Fédé, Samuel Eto'o, évidemment respecté, respectable. Il tout saute. Non, ce discours, il est incroyable. Je regardais les réactions, Benjamin, puisque vous ne les voyez pas. De Shérif, de Salim, moi-même quand j'ai entendu hier
j'imagine
le discours, il est incroyable. Même si on connaît Samuel Eto'o, là, il a poussé la limite jusqu'à l'extrême, quoi. C'est du waouh, magic Eto'o.
Non, c'est de la régression.
Enfin, on n'y comprend rien, mais on voudrait votre décryptage à vous. Allez, alors, donc, premier point, je vais vous faire tous réagir, mais Benjamin, la défaite était souhaitée, donc l'Ouzbékistan. Voilà, c'est comme ça, on souhaite de perdre contre le, je sais pas, 140e, 150e FIFA pour préparer la Coupe du Monde. C'est ce qu'il nous explique.
Non, mais moi, je pense qu'une défaite n'est jamais souhaitée, même quand on joue contre un adversaire plus faible que soi.
On est d'accord.
Après un match, que ce soit une victoire ou une défaite, on essaye toujours de tirer des enseignements du match, et je pense que c'est ce qu'il a fait. Après, bon, on connaît un peu Samuel, on va pas lui en vouloir d'avoir de l'ambition. Certes, certains le trouveront démesuré, mais moi, je crois qu'il faut toujours avoir de l'ambition. Il en a beaucoup, d'ailleurs, et c'est tant mieux pour le Cameroun. Mais pour revenir au match, au premier match contre l'Ouzbékistan, je pense qu'il n'y a rien à dire de ce match, dans le sens où on n'a pas été bon à tous les niveaux. On n'a pas été bon. Et moi, je pense qu'aujourd'hui, on ne pouvait faire que mieux par rapport à ce qu'on avait montré.
C'est clair. Puis, mais enfin, il nous annonce.
Qui sont rentrés en jeu. Oui.
Il nous annonce une nouvelle équipe le 27. Alors, c'est vrai qu'on a vu du mieux, mais enfin, on n'a pas de quoi être emballé non plus aujourd'hui.
On a vu du mieux. Après, où je ne suis pas très, très d'accord par rapport au mode de fonctionnement, c'est le fait qu'on sait tous que la Coupe du Monde va arriver très vite et qu'on n'a pas de fenêtre de préparation avant le début de la compétition. Moi, j'aurais pensé plutôt qu'il fallait avoir tous ces éléments lors de ces deux matchs-là.
Ouais, comme
commencer à préparer son équipe pour être prêt en novembre. Donc, pour moi, je trouvais que ce n'était pas forcément la bonne idée de laisser certains au repos, d'autant plus qu'il y a des nouveaux joueurs qui ont intégré l'équipe. Il fallait vraiment, au thème de ces deux matchs, de commencer à mettre en place quelque chose. Et puis, si je reviens en arrière par rapport au premier match contre l'Ouzbékistan, on a vu que Rigobertson, qui est le sélectionneur, a tenté quelque chose. Il a tenté un système qui ne correspond vraiment pas à la façon de jeu du Cameroun et qui ne correspond pas aux joueurs qu'on a aussi. Ça, c'est un système qui demande beaucoup, qui demande énormément. On a tendance à croire que c'est facile. On voit le PSG jouer comme ça tous les week-ends. Et je crois que ce système-là aussi, quelque part, ne nous a pas aidés. Donc aujourd'hui, il est revenu à des bases simples avec un 4-3-3. Qui, bien sûr, est plus favorable aux joueurs qui ont l'habitude de jouer dans ce système-là. Même si, une fois de plus encore, j'insiste pour dire que le match d'aujourd'hui n'est pas un match abouti dans son ensemble, mais on a quand même vu certaines choses qu'on n'a pas vues au match aller. C'est pour ça que je reste, le sentiment... je me dis qu'on n'a pas tout vu, mais effectivement, on s'interroge tous, mais... N'oubliez pas que je suis Camerounais, il y a aussi mon petit côté Camerounais qui prend le dessus, et avec cette envie de voir le Cameroun performer.
Oui, il y a envie, puis il y a réalité. Salim.
J'imagine tous les auditeurs camerounais qui nous écoutent et qui vont aller mettre leur message sur la page Facebook de Radio Foot. Parce
oui,
que...
faudra mieux pour nous pas les lire dès ce soir, ouais. Parce que sinon on va ouvrir le gaz en rentrant. Si ça me débouche le nez, allez,
non mais je les imagine parce qu'on le sait, c'est un peuple de passionnés et pas qu'un peu. Et d'ailleurs,
l'Afrique est passionnée de foot.
L'Afrique est passionnée, vous avez absolument raison. Mais Samuel Eto'o, c'est la première fois, je crois, que depuis qu'il est président, qu'on a un discours, au final, assez mièvre de sa part. Quand je dis mièvre, presque langue de bois. Sur la première partie, on a eu un match, on voulait faire tester des choses, on a perdu.
Il voulait voir la réaction, y compris dans les tribunes. Je vois pas bien ce que la réaction dans les tribunes va apporter en vue de la Coupe du Monde. Mais enfin,
surtout qu'on était à Séoul, donc je suis pas sûr qu'il y avait 10 000 Camerounais qui étaient dans le stade. Ce que je veux dire, c'est que quand il était joueur, et Benjamin le connaît très bien, quand il était joueur, il n'hésitait pas à dire des choses, pour le coup. Hein, il s'ouvrait dans la presse, tout ce qu'on veut. Là, en tant que président, forcément, vous devez être mesuré, on peut l'entendre. Alors, d'ailleurs, sa première partie est très mesurée, presque trop, trop langue de bois. Et en revanche, de l'autre côté, il part totalement. Le 18 décembre, vous inquiétez pas, on se retrouvera. Enfin, même son discours est lunaire, mais à tous les niveaux, en fait.
On va retourner voir Benjamin, mais un mot de shérif sur ce discours, quand même. Oui, effectivement, c'est le mot, là. Il est perché.
Ouais, c'est inquiétant, je trouve ça, j'ai employé le mot de régression, c'est un discours régressif dans le sens où on connaît le charisme de Samuel Eto'o, on l'adore, il a été un joueur fantastique, c'est lui qui a par moments qui a tenu,
évidemment,
absolument.
On a l'impression qu'il va faire passer une sorte de filtre magique à travers son charisme qui va toucher les joueurs. Donc voilà, il y a une sorte de volontarisme, de pensée magique. Mais le football ne fonctionne pas comme ça. Quand il y a des insuffisances, il y a des insuffisances. Il ne faut pas avoir peur de le dire. Et non seulement on part de bas, je ne vais pas dire de très bas, parce que bon, le Cameroun, quand même, ça reste une bonne nation du football africain. Football africain. Mais de par l'emprise qu'il a sur cette équipe, il commence à fixer des objectifs absolument inatteignables. Et moi, je parle d'emprise sur cette équipe, une emprise qui va finir par devenir négative, qui va se répercuter sur le coach, sur le staff, sur le joueur. On ne balance pas des objectifs. Parce que là, il ne rigolait pas autant au début.
Ah non, il a l'air complètement habité par ce qu'il dit. Oui. J'oublie pas de nous dire que lui aussi, il est fatigué parce qu'il est arrivé la veille. Mais ça ne serait pas étonnant s'il ne parlait pas un peu de lui.
Il prend à témoin le monde entier. D'abord, il n'est pas sélectionneur, il n'est plus joueur. J'ai peur. Pour moi, c'est une régression. J'ai l'impression qu'il n'a pas pris la mesure de la fonction. Parce qu'on ne parle pas comme ça.
Déjà, il aurait fait ça en interne. Ben, les joueurs auraient subi quand même une pression. Enfin, auraient senti une pression en se disant...
On a vu des images déjà. Tu sais, quand il débarque,
tu te rappelles, quand il débarque, t'as raison.
Il leur passe un savon.
C'est vrai, ça.
C'est pas plus mal. Mais sauf qu'il insiste. Il insiste. Et il attend une réaction... Vis-à-vis du peuple du Cameroun, évidemment, mais aussi vis-à-vis de lui-même. C'est du genre, hey, les gars, je suis président, soyez à la hauteur de mon prestige. Mais c'est pas comme ça que ça se passe.
Et là, tenir son discours devant la presse, ça, c'est autre chose encore.
Alors, c'est la presse. Parce
que là, ça déborde du vestiaire.
Camerounaise, même si aujourd'hui, avec les réseaux sociaux,
c'est ça.
Bien sûr, on y a eu accès. Qu'est-ce que vous pensez de cet objectif? Alors, on a parlé hier, Benjamin, du Sénégal, qui a quand même un peu plus de certitude. Champion d'Afrique, un homme. Capital est très fort par ligne, on dit souvent que ça compte pour aller loin. J'ai raconté cette anecdote avec Kalidou Koulibaly, à qui je disais on se retrouve au Qatar pour 4 ou 5 matchs, et lui répond et pourquoi pas 7. On a presque envie d'y croire là. Voilà, comme on le disait, il y a une chance sur 32 pour que chaque équipe soit championne du monde. Mais quand le Sénégal tient ce discours, Benjamin, on a presque envie d'y croire. Quand Samuel Eto'o tient ce discours pour le Cameroun, avec un Vincent Aboubakar qui dit il y a quelques jours on n'a rien à envier au Brésil. Le Brésil a battu le Ghana 3-0. Vincent Aboubakar n'a plus marqué un but avec la sélection depuis la dernière CAN. On a envie de se dire, la méthode Coué, c'est bien, mais il y a des limites.
Non, mais bon, vous voyez très bien que quand c'est le Sénégal qui le dit, il y a plus de gens qui commencent à croire. Mais pourquoi on ne va pas croire quand c'est le Cameroun qui le dit? Mais je pense qu'au-delà de tout ça, quand même, quand on commence une compétition, il y a 32 équipes. Bon, souvent, les statistiques et normalement, l'effectif nous fait souvent sortir des favoris, mais la réalité, ça reste sur le terrain. Si je peux rebondir juste sur Salim et Chérif disaient tout à l'heure, par rapport au discours du président de la fédération, de Samuel Eto'o, il faut savoir que son premier discours, sa première sortie, quand il est rentré dans le vestiaire, il a été un peu dur avec les joueurs. On lui a reproché cela. Aujourd'hui, il est revenu avec une autre approche où il a arrondi un peu plus les angles. Bon,
moi, il est passé d'un extrême à l'autre.
Je n'ai pas fait le défenseur de Samuel Eto'o. Je pense qu'il sait se défendre tout seul. Mais en gros, c'est pour dire que bon, je crois qu'il est en train d'essayer de trouver un discours qui va s'adapter. Mais une fois de plus, il a le droit de rêver, il a le droit d'avoir de l'ambition. Certains vont trouver démesuré au vu peut-être des performances que le Cameroun affiche aujourd'hui, mais il faut savoir une chose, c'est que la réalité d'aujourd'hui n'est pas celle de demain. Donc peut-être l'équipe va évoluer.
Il n'y aura pas de match d'ici au 24 novembre. Il y a quand même la Suisse, la Serbie et le Brésil au programme. C'est vrai que j'ai vu sur Twitter... Allez-y.
C'est des très très grosses nations, ça c'est sûr. Ben, pour moi déjà, toutes les nations qui sont à la Coupe du Monde, c'est des grosses nations, ça c'est sûr. Maintenant, quand on veut aller au bout d'une compétition, il va falloir battre certains, il va falloir battre tout le monde même d'ailleurs. Donc voilà, c'est pas des équipes qui sont imbattables, mais bien sûr que quand on regarde, donc on parle des effectifs, ben forcément. On ne part pas favori face au Brésil, face à la Suisse.
Non, c'est sûr.
Et pas face à la Serbie. Je termine juste sur Twitter, quand on a vu ce que disait Vincent Aboubakar, ce que disait Samuel Eto'o. Et alors évidemment, ça se gausse. Hein, et on a dit, ils veulent aller au bout. Ce serait peut-être déjà bien qu'ils gagnent un match dans cette Coupe du Monde. Et c'est vrai qu'on en est quand même là. Et c'est logique qu'on se pose cette question. à la vue de des prestations de ces dernières semaines et surtout de ces derniers jours.
C'est terrible parce qu'encore une fois, avec Benjamin et nous tous, on a envie de voir cette équipe du Cameroun parce qu'il y a des joueurs qu'on apprécie, qui sont plutôt bons d'ailleurs en club.
Et nous, on rêve du final Sénégal-Cameroun. Évidemment. Ne nous y trompons pas.
Évidemment. Voilà.
Mais dans 20-30 minutes, on va se réveiller.
le souci est là, c'est que le Cameroun, malheureusement, ces deux dernières sorties, qui j'insiste, sont les deux dernières avant le mondial. C'est la dernière fois que Rigobertson voit ses joueurs avant le Qatar.
Et malgré tout. Il y a aussi la CAN, il y a une qualif dans les arrêts de jeu. Tout ça, ça fait partie aussi de. J'allais pas dire du passé.
Non, mais c'est où aussi.
C'est pas les choses qui nous rassurent.
Oui, Benjamin.
Je suis entièrement d'accord avec toi, avec vous d'ailleurs. C'est de fait, et je l'ai dit au préalable que pour moi, effectivement, c'était le moment d'avoir son effectif, comme toutes les sélections d'ailleurs, de pouvoir créer ce groupe-là, de créer une harmonie, de créer un système, de regarder les joueurs. Et moi, j'ai trouvé habile de laisser certains joueurs au repos.
Parce c'est vrai, moi je suis d'accord.
Comme Zambo Anguissa, c'est chose. Repos, c'est quoi son absence?
Je suis d'accord.
Franck Zambo Anguissa qui est si bon.
Son absence a été justifiée par le sélectionneur qui trouvait qu'il jouait énormément et qu'il fallait le reposer parce qu'il avait envie de voir d'autres joueurs. Je pense que la présence de Zambo n'est pas discutable. Elle n'est même pas discutée.
Ah non, c'est
donc
clair.
C'est un joueur qui sera à la Coupe du Monde. Pour être vrai, c'est le meilleur joueur que le Cameroun a aujourd'hui. Donc ouais, je ne vois pas pourquoi il n'y sera pas là. Mais je trouve dommage le fait qu'il ne soit pas venu, qu'on ne l'ait pas convoqué cette fois-ci, parce que ça aurait été bien qu'il soit là.
Au moins un
déjà
match.
Déjà pouvoir mettre quelque chose en place.
Au moins un match, comme l'a fait Didier Deschamps dans les deux derniers matchs.
Exactement, parce qu'on ne va pas attendre le 24 pour le premier match, si je ne me trompe pas.
24 novembre.
Pour essayer des choses.
Ouais. Très bien, voilà, on a fait à peu près le tour de ce qu'on avait à dire.
Mais promis, Sporting Camerounais, on aime bien le Cameroun. Hein,
On est là pour constater.
Ça dit, voilà.
Sincèrement, on est derrière les Lions.
Il faut être objectif. Il faut être objectif. Hein, et moi, je trouve que vous êtes objectif. Moi aussi, d'ailleurs, je le suis. Après, c'est vrai que mon petit côté en tant que Camerounais, ça peut me rattraper de temps en temps, mais je reste toujours objectif.
Benjamin, sans rancune pour l'Algérie, mais on a plus de certitude. On a plus. Non,
l'Algérie a des certitudes devant sa télé.
On a plus de certitude avec le Sénégal qu'avec le Cameroun. Voilà. C'est là où on voulait en venir.
Mais tu sais quoi, juste pour Nabil, je pense qu'il doit être en train de nous écouter. Je vais juste lui dire qu'aujourd'hui, le Cameroun a plus de chances de gagner la Coupe du Monde que l'Algérie.
Exactement. Et c'est Nabil, je crois, entre autres, qui disait que ce serait bien que le Cameroun gagne au moins un match. Ben, le Cameroun en aura la possibilité.
Voilà,
pas l'Algérie.
C'est ça, exactement.
Ils peuvent toujours jouer à la PlayStation.
J'enverrai un petit message.
Je leur souhaite d'aller le plus loin possible. Et c'est sincère.
Et nous, on salue l'arbitre du match. Pensez amical aux Algériens. On salue l'arbitre du match Algérie-Cameroun, si jamais il nous écoute.
C'est du passé.
Bravo, bon boulot. Voilà pour le Cameroun demain, bien sûr, avec Hugo Moissonnier. C'est Hugo qui s'installe dans ce fauteuil demain et jeudi. Je vous retrouverai vendredi. Hugo Moissonnier, il s'agira de débriefer les autres mondialistes africains. On a parlé hier donc du Sénégal, pour lequel on est ni optimiste ni pessimiste, mais on a beaucoup de certitudes. On va en dire deux mots tout à l'heure. On a parlé du Maroc hier également. Là, on vient de parler du Cameroun. Il restera donc la Tunisie demain après le match face au Brésil et le Ghana après celui face au Nicaragua. Pour l'heure, place à l'Europe. On vous garde, Benjamin. Hein, ne partez pas. On vous garde.
Oui, alors
vous allez pouvoir
sûr.
Balancer sur les Européens.
Ouais, là, je vais me lâcher, là, je pense. Saka's had too much time and space. Pokes there, he's spilt it, and Havertz scores. It's a gift for Kai Havertz. And he prods the ball home. It's 3-3. And Germany picking themselves up off the canvas so quickly, having fallen behind. Well, what a game of football. Oui, on a failli aller boire un petit café, on était bien avec cette musique.
Ouais,
là, ça crie un peu. Allemagne-Angleterre. Alors voilà, deux équipes qui nous ont proposé un match plutôt sympa, 3-3, on ne va pas cracher dessus, mais deux équipes qui ne sont quand même pas au top, sortir de cette Ligue des Nations. On les retrouvera donc, elles aussi, bien sûr, à la Coupe du Monde. C'est pour ça qu'on en parle. Ça fait partie des traditionnels favoris d'une Coupe du Monde. Et là, on y croit quand même très, très moyennement. On rappelle que l'Angleterre est reléguée à l'issue de ces 6 matchs de Ligue des Nations. Les Anglais, bah, c'est simple, hein, y a pas une victoire en 6 matchs. 3 nuls, 3 défaites, 10 buts encaissés, 4 marqués. L'Allemagne, c'est un tout petit peu mieux. Il y a une victoire, 4 nuls et une défaite. Pas brillant, brillant. Bon, voilà, une première analyse, Salim, pour bah, les Anglais, évidemment, on sait qu'ils vous sont chers. Football's coming home, non, pas sûr. Hein.
Ah non, là, et parti comme ça, on est sur une période très, très particulière, parce qu'il y a tellement de choses à évoquer avec cette équipe d'Angleterre qui a été cataclysmique pendant cette Ligue des Nations. Au moins, sur le dernier match, la seule note d'espoir, c'est comment il y a eu début dans le jeu. Parce que sur les 5 premiers matchs, il y avait eu un seul but sur pénalty. Donc là, au moins, il y a eu autre chose.
Il y avait eu un but en 5 matchs.
C'est ça. Kane a marqué sur pénalty, mais il y a eu d'autres buts qui ont été marqués quand même, heureusement, notamment par Luke Shaw. Donc hier, il y a eu des choses et un verre à moitié plein, surtout sur cette seconde période. Une quête de réaction, parce que quand vous êtes mené 2-0 par l'Allemagne à domicile après cette sale série en Ligue des Nations, vous dites... qu'est-ce qui va se passer? Et au final, l'Angleterre a réussi à réagir en menant 3-2 à quelques minutes de la fin. Donc ça, c'est le verre à moitié plein. Mais il y a eu une Ligue des Nations tellement horrible. Des joueurs qui sont ciblés. Southgate qui est critiqué comme il ne l'a jamais été depuis qu'il est sur le banc de l'équipe d'Angleterre. Bref, tellement d'interrogations. Sincèrement, vous aurez l'occasion d'évoquer dans les prochaines semaines avec la Coupe du Monde, avec... quand on sait que dans le même groupe, il y a l'Iran qui, il n'y a pas longtemps, la semaine dernière, a battu l'Uruguay de Núñez et Luis Suárez qui étaient présents. Avec les États-Unis qui sont dans le groupe, le Pays de Galles. Je me pose sincèrement la question si l'Angleterre va même passer le premier tour.
L'Iran, on peut vous le dévoiler parce que c'est tombé il y a quelques instants. L'Iran qui a fait match nul avec le Sénégal.
Bon,
partout.
Ouais,
ils ont marqué les deux buts d'ailleurs, les Iraniens. Un but contre leur camp à la 55e et ensuite les Iraniens ont égalisé. Bon résultat pour l'une et l'autre équipe d'ailleurs.
Et j'insiste, l'Iran a battu l'Uruguay et fait nul contre Sénégal dans la même semaine. C'est pas rien.
Ils font un bon mondial en 2018, hein. Il y a des références.
Et vraiment, j'ai peur pour l'Angleterre.
Vous avez peur pour l'Angleterre ou pour l'Allemagne d'ailleurs, parce qu'on parle des deux, là, les Allemands sont pas franchement plus rassurants.
Alors l'Angleterre, ça va être simple, il y a un système qui ne fonctionne pas, c'est-à-dire trois défenseurs derrière. Alors quand ils jouent en bloc, tous derrière à 20, dans leurs 20 derniers mètres, bon, il n'y a pas de problème. Qu'ils jouent à 3, à 5 ou 5 défenseurs, 10 défenseurs, bon. Mais dès qu'il commence à y avoir des espaces, c'est un peu la panique à bord. Et la deuxième chose, c'est surtout un style de jeu qu'ils n'ont toujours pas trouvé. Ils ne se décident pas, c'est-à-dire qu'en première mi-temps, ils jouent hyper défensif, ils jouent les contres. Ils les jouent pas mal d'ailleurs. Et en deuxième mi-temps, une fois qu'ils sont menés, ils attaquent à tout va et ça réussit. Il faudra bien choisir un moment ou un autre. Ça a marché à l'Euro, mais là, il faut vraiment savoir ce que veut faire Southgate, avec quel système, quel style de jeu.
Alors justement, je voudrais qu'on l'écoute. Après, on va retourner voir Benjamin Boukandjo, parce qu'il va pouvoir à son tour flaguer. Ou pas, on ne sait jamais. Benjamin, il est peut-être conquis hein, par le jeu anglais ou le jeu allemand.
Il est conquis par le jeu camerounais. Donc...
Alors, je vous propose qu'on écoute Gareth Southgate. Pardon, il est bon, lui bah, en commun, il n'est pas d'accord avec nous.
Ce soir, ce sont plusieurs erreurs individuelles qui nous coûtent des buts. Mais je préfère me concentrer sur l'état d'esprit irréprochable et la confiance que nous avons montrée. Je pense que le public a pu l'observer également. Nous sommes toujours exposés à la pression et nous allons à la Coupe du Monde où nous devrons aussi y faire face. Cette semaine, nous avons beaucoup appris et cela doit nous servir pour aller de l'avant et souder le groupe. Et je suis certain que nous allons en tirer des enseignements pour la suite.
Yeah, I think it's going to benefit us in the long run, without a doubt.
Bon, c'est un peu moqué de Samuel Eto'o tout à l'heure c'est dans pareil, sa déclaration. Ouais. On va laisser Benjamin Boukandjo réagir à la déclaration de Gareth Southgate.
Non, mais déjà, si je peux déjà revenir par rapport au match d'hier, l'Angleterre, ah oui, il s'en sortait bien, on va dire. Mais au-delà du résultat, moi, je pense que ce qui est inquiétant, c'est le jeu que propose l'Angleterre. Lors de cette Ligue des Nations, elle n'a pratiquement rien proposé. Et au final, elle finit dernière de la poule, avec 3 points. Elle n'a pas gagné un match. Et c'est très, très inquiétant. Après, la surprise, la Hongrie, bien sûr, dans ce groupe-là. Mais hier, on a assisté à un très, très bon match de foot en lui-même. Parce que quand on regarde les matchs, on aime bien voir des buts. Moi, j'en ai vu des buts. Mais j'ai trouvé une défense anglaise, mais très, 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 très fébrile. Maguire, quand je regarde, enfin, déjà à Manchester, c'est inquiétant. Et là, c'est pareil quoi en sélection. Donc, bien sûr qu'on s'interroge, qu'est-ce que l'Angleterre va faire derrière. Mais quand on suit encore les propos de l'entraîneur, vous voyez que il y en a qui ont de l'ambition. Hein.
Depuis le début de cette émission.
Mais ce qui est drôle sur Southgate, quand vous évoquez l'ambition, Benjamin, je rappelle que Southgate, quand même, malgré tout, il reste sur deux demi-finales. Enfin, même finale. L'Euro, il y a eu finale. Avec la défaite et la Coupe du Monde, il fait demi-finale en 2018, quand même. On a tendance à l'oublier. Ça a l'air loin, mais il a quand même fait demi-finale.
Oui.
Et le truc, c'est que.
Oui,
il fait
2018, ça fait 4 ans. Hein.
Bien sûr. Non, mais je suis totalement d'accord avec vous. Mais lui, il va ressortir ça pour
l'Euro. Et l'Euro, on rappelle que les vainqueurs ne sont pas qualifiés pour la Coupe du Monde.
Absolument.
Oui, le truc. Et quand on regarde la performance de l'Angleterre en 2018 et celle d'aujourd'hui, franchement, c'est le jour et la nuit quand même.
Et encore, le truc, c'est que lui. En fait, sur 2018 et sur le dernier Euro, il a son fameux système ultra défensif. Et c'est pour ça qu'il est très critiqué, Gareth Southgate. C'est que quand vous voyez l'effectif de l'Angleterre, offensivement parlant, quand vous avez des Kane, des Sterling, des Mount, et je pourrais continuer comme ça très longtemps.
Mais à la limite, pourquoi pas, Salim ?
Vous avez
si l'AXA communé, pourquoi pas ?
Oui, mais le problème, c'est qu'à un moment donné, on observe l'alignation. J'ai jamais été footballeur professionnel, contrairement à Benjamin. Mais le truc, c'est qu'à un moment donné, tu mates cette Ligue des Nations. Quand tu t'en prends 4 à domicile par la Hongrie, ils ont perdu 4-0 à domicile face à la Hongrie. À un moment donné, tu te dis, mais attends, ce système-là, est-ce que je vais continuer de le garder, ce 3-4-3 qui est en fait un 7-0-3, hein, puisque en fait, les 7 sont ultra défensifs. Et il y a un problème. Pour le coup, il y a un vrai problème d'utilisation de joueurs et de bons joueurs à mettre sur le terrain.
Un dernier mot sur l'Angleterre, Benjamin.
L'Angleterre, ils sont tellement défensif qu'en phase offensive, les joueurs, ils n'existent pas. Les Harry Kane, on n'arrive pas à les trouver. Il y a un gros problème de transition avec l'Angleterre entre la phase défensive et la phase offensive. Et moi, je pense que ce système-là, il ne convient pas. Il ne convient pas parce que quand je regarde des joueurs aujourd'hui, j'ai l'impression qu'ils sont inhibés par le travail défensif. Qu'aujourd'hui, leur talent, leur génie, par exemple, hier, moi, j'ai vu Foden, c'est pas le même Foden que je vois quand je vois City.
C'est un tâcheron avec l'équipe pareil. Foden.
C'est pas pareil, mais c'est parce que avec ce système-là, il n'est pas dans les conditions pour donner le meilleur de lui. J'ai bien aimé l'entrée de Xhaka qui a apporté quelque chose, qui a apporté un plus, mais Mount. Je pense que si l'Angleterre va comme ça avec ce système, Mount aussi qui a été très bon.
Les deux, quand ils sont
Harry Kane. Harry Kane, fidèle à lui-même, mais je trouve que si l'Angleterre va avec ce système-là, pour moi, franchement, ils ne feront pas.
Ils n'iront pas très loin. Allez, on doit enterrer l'Angleterre. Un mot rapide sur l'Allemagne, quand même, parce que je n'arrive pas à vous faire parler des Allemands. 20 secondes chacun pour que vous me donniez votre sentiment sur la Mannschaft éliminée prématurément de la dernière Coupe du Monde et qui ne part pas à la prochaine avec tous les atouts qu'on lui connaît, même si les Allemands, rappelait Christophe Jousset en début d'après-midi, on sait qu'ils ne sont pas forcément très bons quand ça ne compte pas et qu'ils sont capables d'être bien meilleurs quand ça compte. Ça n'est plus vrai.
Ça n'est plus vrai. Disons que lorsqu'il y a les éliminatoires, alors vous allez me dire, les éliminatoires, ça compte pas. Si, ça compte pour le coup, parce que ça vous permet de vous qualifier. Et sur les éliminatoires, ils donnent des roustes et pas qu'un peu. La Ligue des Nations, ça compte quand même un petit peu. Ça reste une compète. Là, pour le coup, ils se sont loupés parce qu'ils se sont tombés aussi sur une Hongrie qui a surpris tout le monde. Est-ce qu'ils ont pris de haut ? Est-ce qu'il y a eu des blessés ? Il y a eu pas mal de blessés pour le coup en équipe d'Allemagne. Donc, je reste mesuré sur la défaillance allemande et je reste plutôt confiant, surtout après la dernière Coupe du Monde où ils ont été éliminés au premier tour, où j'ose croire qu'ils veulent prendre leur revanche pour le coup. Je suis beaucoup plus optimiste pour les Allemands que pour les Anglais.
Très beau, shérif.
Plus de certitude, il y a un système, c'est Absolument. Le 4-2-3-1. A priori, Hansi Flick sait où il va. Le gros problème, depuis un bout de temps, je le dis souvent, c'est il manque vraiment un vrai neuf, un vrai finisseur. Il y a des occasions. L'Allemagne reste l'Allemagne, c'est-à-dire qu'elle fait le jeu, contrairement à ce qu'on croit, elle n'est pas du tout défensive, elle est celle qui a pris l'initiative contre l'Angleterre. Il y a à espérer, sauf qu'il faut surmonter les deux traumatismes des deux derniers tournois qu'ils ont faits, c'est-à-dire Coupe du Monde et Euro.
Rapidement,
quand même un passif, un psychologique, il va falloir surmonter tout ça.
Rapidement, un petit mot sur la Belgique, qui nous laisse aussi une impression bof-bof. Benjamin, les Belges demi-finalistes, bien sûr, de la dernière édition, on les voit chaque fois favoris des grands tournois, puis ils n'y arrivent pas, et c'est vrai que... La dernière Coupe du Monde, on pensait qu'ils pourraient poser des problèmes à la France, ils auraient pu être en finale. À l'Euro, on les attendait, c'est quand même une génération exceptionnelle qui, pour l'instant, n'a rien gagné.
Olivier, on parle de propos lunaires, je vous assure qu'en Belgique, ils sont beaucoup plus lucides, beaucoup plus réalistes.
Donc c'est pour ça que j'ai marqué bof bof à côté de la Belgique.
En Belgique, on appelle les observateurs, notamment les médias et tout, dimanche, bon. On se pose de plus en plus la question de savoir si la Belgique n'a pas raté justement le grand rendez-vous de 2018, de 2021. Mm. Apparemment, ils s'en sont permis. Et là, on assiste à un lent déclin.
Le truc, c'est qu'il y a deux génies en sélection belge, Kevin De Bruyne et Thibaut Courtois, qui sont hors sol, j'ai envie de dire. Et après, pardon, Eden Hazard n'est évidemment plus le Eden Hazard d'avant.
Plus du tout.
Et puis, à côté de ça, vous avez des joueurs qui sont loin d'être des mauvais, bien sûr, mais il n'y a plus cette belle génération de 2018 avec un Lukaku qui était en méga forme et d'autres joueurs que je pourrais citer.
Bah, c'est toute ça, la défense qui a vieilli et qui a fini bien où sûr. Elle devait finir, l'année où elle devait finir, c'est-à-dire maintenant les Denayer, les Vertonghen, les...
Benjamin, si je vous demande un mot sur les Belges.
Oui, mais je pense que la Belgique, aujourd'hui, la question qui se pose, c'est de savoir, c'est une génération là qui est là depuis un sacré moment. Moi, l'inquiétude que j'ai, c'est que j'ai le sentiment, et je peux même dire que la certitude, que cette génération partira sans avoir gagné un trophée. Et ça serait dommage, parce qu'au vu de la qualité des joueurs, bon, même si il y a certains comme Hazard qui a vraiment perdu en termes de qualité, mais quand on regarde l'équipe belge, chaque année ou même avant le début d'une compétition, c'est une équipe qui est constituée de grands joueurs et qui, logiquement, devrait se retrouver dans le dernier carré. Mais le sentiment que j'ai, c'est que ça passe jamais. Ils n'y arrivent pas. Il y a toujours un truc qui manque. Soit c'est un petit but, il leur manque toujours quelque chose. Et j'ai peur que, malheureusement pour la Belgique, cette génération dorée, on va dire entre guillemets, aura fini, mais il ne gagnera pas un trophée.
Alors voilà pour ceux qui, ces dernières années, pouvaient faire figure de favoris.
D'accord.
Oui, non, mais bien sûr. Mais il faut qu'on enchaîne, la shérif.
Ouais.
un petit mot sur finalement ceux qui sont moins favoris ces dernières années, mais qui ont performé dans cette Ligue des Nations. Un petit mot rapide, le Pays-Bas, qui sera dans le groupe du Sénégal. Mmh. On l'a dit, on a évoqué les résultats du Sénégal. Ce sera la première grosse affiche de cette Coupe du Monde. On peut vraiment parler de grosse affiche, le 21 novembre, Pays-Bas-Sénégal, dans un groupe où il y a également l'Équateur et le Qatar. Les Bataves, comme on dit, sont plutôt bien revenus. Hein.
Ouais, il y a une bonne dynamique depuis que Louis van Gaal a repris la sélection. Il l'a qualifié, hein, c'était pas évident, il était très très mal parti. Bah, depuis qu'il est arrivé, l'équipe des Pays-Bas ne perd plus. Il y a des certitudes sur le système. Il y a toujours la base Ajacide, hein, c'est-à-dire les joueurs de l'Ajax qui sont là un peu. C'est l'équipe de base qui soutient un peu cette équipe des Pays-Bas. Et surtout, il y a un truc qu'on ne fait pas très attention, mais c'est très important chez Louis van Gaal, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de passe droit, il n'y a pas de passé, il n'y a pas de palmarès. Il prend les meilleurs du moment. Et alors, ils peuvent jouer dans des clubs dits secondaires ou à l'étranger. Ils gardent tout ça d'un bon oeil. Il y a une vraie compétition, une vraie émulation au sein de cette équipe des Pays-Bas. Par exemple, on sait que Van Dijk tiendra la défense centrale, mais pour le reste, bon, même si De Ligt fera la paire avec lui, par exemple, il y a aussi des De Vrij qui sont là, puis Timber de l'Ajax. Il y a une concurrence, une émulation. C'est pour ça que cette équipe, elle a encore les crocs. Voilà.
Et puis on aura l'occasion de reparler de la Croatie, hein, mais on rappelle que donc, ces deux équipes, la Croatie et les Pays-Bas, sont qualifiées pour la finale à 4 avec le Danemark. On connaîtra le dernier qualifié ce soir entre l'Espagne et le Portugal, mais c'est vrai que les Croates, finalistes il y a 4 ans, candidats et ont montré de très belles choses. Allez, on va parler d'une équipe qui n'y sera pas, la Coupe du Monde. Ça nous fait rire forcément puisqu'on est français, mais enfin bon, ils ont fait une bien meilleure Ligue des Nations. Alors, ils choisissent leur rendez-vous, les Italiens, ils sont comme ça.
Schaffer, l'unghia che attacca centralmente a destra, ecco parte il tiro, la respinta, porta vuota, il miracolo di Gigio Donnarumma, tre opportunità da rete.
Doucement, l'Italie, bon, c'est play, premier traitement avec cette qualification pour le prochain Final Four de la Ligue des Nations pour la deuxième édition consécutive. L'Italie fera partie de cette finale à 4.
Voilà donc deuxième finale à 4 de rang, c'est pas de bol parce que c'est aussi dans le même temps deuxième Coupe du Monde où ils ne seront pas les Italiens, champions d'Europe, alors ça marche vraiment par un coup, champion d'Europe en 2020 mais en 2021, une finale à 4 un peu ratée derrière, ensuite la Coupe du Monde, puis là ils reviennent puisqu'ils ont remporté ce groupe, donc avec l'Angleterre, l'Allemagne et la Hongrie, sacré groupe. 2-0 hier, victoire à Budapest. 3 victoires, 2 nuls, 1 défaite. Bonsoir Matteo Cioffi.
Bonsoir Olivier, bonsoir tout le monde.
Salut, on aura 3 questions à vous poser, mais d'abord on écoute votre sélectionneur, monsieur Mancini.
Bien sûr, c'est important pour nous d'avoir rejoint la phase finale de cette compétition pour la deuxième fois d'affilée. Malheureusement, c'est vrai, la déception de notre non-participation à la Coupe du Monde est encore là, elle reste. Difficile de ne pas y penser. Maintenant, allez, je laisse cette amertume de côté, car mes joueurs ont montré la volonté de recréer un groupe uni pour se relancer, tout en sachant que ce ne sera pas si facile que cela et qu'il faudra travailler dur pour y arriver.
Alors, c'est bien, finale à 4, la deuxième de rang, mais pas de Coupe du Monde. Quelle est la réaction de l'opinion publique italienne, Matteo, avec cette qualification pour la finale à 4, mais un mondial qu'ils regarderont dans leur canapé?
Oui, la réaction des médias transalpins suit un parcours similaire et on peut résumer en merci les gars, mais la Coupe du Monde reste gravée dans la mémoire. Donc pas simple vraiment d'effacer la non-qualification, mais tout laisse croire qu'avoir rejoint la phase finale de la Ligue des Nations peut redonner un peu de souffle, un peu de morale à ce groupe, un premier pas vers la renaissance, on l'espère. Soit dit, la presse est convaincue que la squadra a du potentiel, et à ce propos, le Corriere dello Sport titule ce matin « Che rimpianto, che regret ». C'est-à-dire que si l'équipe avait joué de cette façon, comme face à l'Angleterre et l'Hongrie, elle serait certainement présente dans la liste des nations qui iront au Qatar. Puis il y a le Quotidiano Sportivo, le journal sportif de Bologne, qui rappelle qu'il y a une Italie qui sait encore gagner. Et à la fin, allez, peut-être le titre qui explique l'esprit qui règne en ce moment chez les Italiens, celui de la Gazzetta dello Sport, qui sur sa première page toute rose a écrit « Italie, joie amère ».
Oui, ça on peut le comprendre, joie amère, parce qu'encore une fois, la Ligue des Nations, c'est bien. Ça évite des matchs amicaux, mais enfin, sinon ça ne sert pas à grand-chose et ça n'emballe pas vraiment. Alors justement, quelle est la stratégie, Matteo, de Roberto Mancini? Sur quel joueur s'appuyer pour que ça dure?
Mancini, dans ses dernières rencontres, a certainement fait des tests. Il a expérimenté de nouveaux joueurs. Il a même adopté un mode de jeu, le 3-5-2, qui est différent par rapport à son premier choix, qui reste le 4-3-3. Mancini n'a pas l'intention tout de même de révolutionner son groupe qui reste à la base de celui qui a remporté l'Euro l'année passée. Il y a par exemple face à l'Hongrie 8 joueurs sur 11 étaient des champions d'Europe. L'idée du technicien est donc d'essayer d'intégrer 3-4 joueurs nouveaux, si possible jeunes, avec une proportion offensive pour leur donner une place dans les 11 titulaires et non pas les faire rester assis sur les bancs de remplaçants. Et pour l'instant, dans ce panier, on retrouve Gianluca Scamacca, avant-centre de West Ham, Wilfried Gnonto, attaquant de Leeds, Sandro Tonali, milieu de terrain du Milan AC, et Lorenzo Pellegrini, le capitaine de la Rome. Et rien n'exclut que d'autres joueurs pourront bientôt s'ajouter à cette liste.
Hein, très rapidement, il y a quand même encore quelques points faibles. Je vous demande très rapidement parce que je voudrais avoir le temps de poser une question sur cette squadra à nos invités.
Oui, l'Italie souffre énormément l'absence d'un vrai attaquant et plus particulièrement d'un avant-centre pur. C'est étonnant pour un pays qui, dans son histoire, était toujours assez riche de talents offensifs. Si on pense aux champions du monde avec 2006 avec Francesco Totti, Del Piero, Inzaghi, Luca Toni. Donc c'est assez étrange cette chose-là. Les présents est bien différent. L'entraîneur de la nationale se plaint de ne savoir pas où dénicher des attaquants, surtout s'ils regardent la Serie A qui devait être le berceau principal de la squadra azzurra. Mancini n'a pas tort, je vous fais deux exemples. Dans ce début de saison, pendant la deuxième journée de Serie A, c'est vrai, on n'a pas marqué beaucoup de buts ce jour-là, 13 buts, mais un seul a été réalisé par un joueur italien. Et il a fallu attendre la 7e journée pour voir le premier doublé tricolore grâce à Ciro Immobile face à la Cremonese. Ce sont des indices qui montrent que quelque chose ne va pas vraiment dans la juste direction.
Merci Matteo, c'était toujours un plaisir de vous avoir en direct de Milan et avec cet accent inimitable. On l'a bien compris que les Italiens, bon voilà, ils ne sont pas mécontents, c'est revenu. J'entends rire Benjamin Bucangio, on ne vous a pas oublié, hein. On accélère sur l'Italie, mais on vous tient pour les quelques dernières minutes parce que je veux avoir votre avis sur le dernier sujet. Juste un mot rapide, Salim, sur cette squadra, qui se contente de ce qu'elle peut.
Oui, qui est en transition, on l'a vu avec cette sélection qui a été réalisé et effectué par Mancini avec quand même beaucoup de joueurs qui étaient là, qui étaient à une ou deux sélections simplement. Hein. Donc, comme quoi, il veut quand même insuffler du, et injecter du sang neuf. Mais bon, c'est vrai que l'Italie, ça a été une période particulière. Je vous rappelle juste que lorsque la Coupe du Monde va démarrer, le jour du démarrage de la Coupe du Monde, l'Italie va jouer un match amical face à l'Autriche. Vous imaginez quand même dans la tête des joueurs, ah, il y a la Coupe du Monde qui démarre en Qatar, nous on joue face à l'Autriche.
Vince Gaud, Chérif, qu'est-ce qu'elle vous inspire cette équipe d'Italie ?
Le brouillard. C'est-à-dire que deux rendez-vous manqués à la Coupe du Monde, c'est un gros, gros problème structurel. Et ils gagnent l'Euro dans le même temps. Et ça.
Image un peu brouillée.
C'est brouillé. J'y vois pas clair avec cette équipe d'Italie. Alors, sans parler du championnat, après, on pourrait parler aussi des clubs. Voilà.
Non, on n'a pas le temps parce qu'on a.
Des joueurs exceptionnels.
On a un jingle coup de boule.
Ouais.
Coup de boule.
Encore un joueur polonais au sol. Et alors ça s'échappe. Oh, le coup de tête. Le coup de tête, terrible image, le coup de tête de Darnell Bill.
Je pense que le match va s'arrêter là-dessus.
C'est vraiment le geste qu'on voulait pas voir.
C'est inadmissible.
Quand la racaille s'invite dans le jeu et sous le maillot bleu des moins de 18 ans, France-Pologne dimanche à Limoges, 3-2 pour les Polonais face à une équipe de France déjà réduite à 8 en 15 minutes. Et puis ça, un tacle très appuyé, voire dangereux, une échauffourée et le coup de tête du fautif français qui s'est excusé depuis. C'est tellement facile de s'excuser après. 4 rouges qui signifient match définitivement arrêté. Quelle honte, non ?
Ah là, on est atteint un niveau. Bernard Dumas, il a été dépité après le match. Il en a parlé aussi dans la presse.
Oui, alors on n'aura pas le temps de l'écouter, mais il a dit « Certains ne reviendront plus ». C'est la moindre des choses. Mais évidemment, certains ne reviendront plus sous le maillot bleu.
Bah, le problème, c'est intéressant. C'est, au moins, on montre aussi l'importance du maillot bleu. Parce qu'aujourd'hui, on donne au final facilement des sélections. Vous savez, dès que vous commencez à performer, etc. Mais on leur fait comprendre aussi à certains joueurs. Et là, pardon pour le terme vulgaire, t'as merdé là, t'as déconné, donc t'es puni. Et c'est bien d'entendre le sélectionneur dire stop pour moi.
Benjamin, ça vous inspire quoi? Alors, on a cet exemple-là, on a Prestel Kimpembe, c'est une catastrophe l'image qu'il donne face à l'arbitre. Il y a 15 jours, c'était à Brest où il repousse violemment du bras l'arbitre et pas sanctionné. Wesh, touche-moi pas, frère.
Il a pas été sanctionné.
Waouh, il n'est pas sanctionné.
C'est ça le truc.
Benjamin, c'était comme ça il y a 15 ans, non?
Ah non, honnêtement. Je vais essayer d'être poli, mais je pense que c'est un problème de société. C'est un problème de société et depuis un moment, on le répète, on dit qu'il y a un problème qu'il faut affronter, mais on a l'impression que personne ne fait rien. Et des images comme ça, honnêtement, c'est pas des images qu'on voit même pas sur un terrain de foot et je dirais même dans la vie de tous les jours. C'est des trucs qu'il faut bannir, surtout dans le football, il faut bannir. Maintenant, pour moi, je crois que il faut regarder la base. La base, c'est les formateurs, c'est les clubs.
Ah, mais c'est eux qui sont dans la galère, les formateurs, les joueurs. Parce qu'ils ont des enfants de 10-12 ans qui vont leur dire
«
Ouais, je parle-moi pas comme ça, frère !»
Et oui, bien sûr, il faut les éduquer. Et puis, quand il faut sanctionner, il faut sanctionner. Il ne faut pas faire dans la demi-mesure, il faut vraiment frapper fort, là. Parce que sur le coup, c'est pas une belle image, c'est pas ce que nous, on aimerait voir. Et
il aurait fallu frapper fort contre
aux jeunes
qui
ont envie de venir.
Oui, on s'en doute. C'est l'évolution, dit-on, mais c'est pas pour ça qu'il faut baisser les bras. Il faut éduquer. Ben, moi, j'ai été éduqué aujourd'hui par Laurent Salerno qui a dit il faut pas rendre trop tard. Il faut laisser des secondes avant. Alors, voilà, je vais lui en laisser plein. Il a bien raison. Benjamin, la prochaine fois, vous venez, hein, pour une fois. Franchement, que c'était moi qui étais là.
Ah oui.
Enfin, mais il m'a dit ça comme si pas la dame.
On s'est bien débrouillé quand même. Merci d'avoir été avec nous. Merci, Chérif. Merci, Salim. Merci, Monsieur Salerno, c'est à vous. Merci à tous. Hugo Boissonnier demain.